Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le Patchwork sur Esprit Occitanie pour ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Cette semaine, soyons un peu plus pratiques et un peu plus légers que la semaine dernière et je vous propose donc un nouvel épisode des 4 à la suite en droit du travail.
Ah oui.
Finalement, c'est comme pour les enfants, on apprend mieux en s'amusant. Alors préparez-vous, main sur les buzzers, c'est parti. Première question, ai-je le droit de remettre la lettre de licenciement en main propre au salarié ? Le Code de travail nous dit « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, la lettre de licenciement doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. » Ça, c'est ce que dit le Code. Donc, vous devez vous dire, si c'est ce que dit le Code, pourquoi nous pose-t-elle la question alors ? Eh bien, pour la Cour de cassation, l'envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Pour les juges, la notification du licenciement par LRAR ne constitue pas une formalité substantielle et donc, si vous faites une remise en main propre, vous ne serez pas condamné à payer une indemnité au salarié pour irrégularité de la procédure de licenciement. Donc, oui, la remise en main propre contre décharge est possible, mais attention, elle ne vous protège pas de certains litiges. Le salarié licencié peut contester la date de notification du licenciement, par exemple. Sachez également que si vous envisagez une transaction, cette dernière ne sera possible que si le licenciement est notifié par LRAR. Dans le cas contraire, aucune transaction ne pourra être conclue. Le refus du salarié de prendre sa lettre de licenciement et de signer le reçu ne remet pas non plus en cause la régularité de la procédure de licenciement. En cas de litige, il faudra toutefois prouver qu'il a refusé la dite lettre de licenciement. Donc, vous voyez, oui, c'est possible, mais sans doute pas conseillé, et finalement, une bonne LRAR reste le mieux. Deuxième question, ai-je le droit de conclure une transaction après une rupture conventionnelle ? Alors, pour répondre, on va reprendre de brèves définitions. La rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est ? Elle vous permet de convenir d'un commun accord avec votre salarié des conditions de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée. Vous organisez les modalités de rupture avec notamment le montant de l'indemnité, et la date de fin de contrat, qui ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation, par la directe. La transaction, elle, se distingue de la rupture conventionnelle. Elle ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail, mais elle sert à éviter les contestations qui peuvent naître après cette rupture. Son contenu doit faire ressortir des conditions réciproques. La transaction ne peut intervenir qu'une fois que la rupture du contrat de travail est devenue définitive. Alors, oui, on peut conclure une transaction après une rupture conventionnelle, mais attention, la Cour de cassation précise et veille sur deux conditions. La transaction doit intervenir postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par la directe. Et l'objet de la transaction est de régler un différend relatif à l'exécution du contrat de travail sur des éléments non compris dans la convention de rupture. En résumé, on peut transiger sur le paiement des heures sup, le montant d'une prime ou le nombre de congés payés non pris, par exemple, mais si ces différents éléments n'ont pas été discutés dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle. Et surtout, vous ne pourrez pas transiger sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. La transaction sera nulle, car cela revient à transiger sur un différend relatif à la rupture. Et enfin, attention, une clause de renonciation à tout recours en justice contenue dans une convention de rupture conventionnelle est réputée non écrite parce qu'au vu de tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien, ce n'est absolument pas sa place. Troisième question, ai-je le droit de rompre une période d'essai pendant un arrêt maladie ? Alors, l'objectif de la période d'essai, c'est de vous permettre d'évaluer les compétences du salarié nouvellement recruté, de connaître ses aptitudes à occuper son emploi. En cas d'arrêt maladie, la période d'essai est prolongée pour que vous puissiez évaluer le salarié pendant la durée prévue initialement. c'est-à-dire que son terme initial est reporté pour une durée égale à la suspension du contrat de travail. Si vous envisagez une rupture de contrat de travail pendant la période d'essai, il vous faudra respecter un délai de prévenance en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise, de son ancienneté en quelque sorte. Et le délai de prévenance s'applique aussi au CDD, qui a une durée d'essai d'au moins une semaine. Alors oui, vous pouvez rompre la période d'essai d'un salarié en arrêt maladie, d'origine non professionnelle, attention, mais cette rupture ne doit pas être liée à l'état de santé du salarié. Si tel est le cas, il s'agira d'une mesure discriminatoire et donc soumise à possibles sanctions. Donc la rupture doit être uniquement liée aux compétences du salarié. Faire appel à un avocat pour la rédaction du courrier de rupture peut être une bonne idée. Je dis ça, je dis rien. Quatrième et dernière question, ai-je le droit d'appeler l'employeur d'un candidat pour avoir des informations ? Donc, autrement dit, est-ce que tu peux faire un peu le coup de fil à un ami façon Jean-Pierre Foucault pour savoir ce que son employeur actuel pense de ton candidat ? Eh bien, vous le savez, lorsque l'employeur reçoit un candidat pour un emploi, il n'est pas libre de poser toutes les questions qu'il souhaite. Les informations demandées doivent obligatoirement être en relation directe et nécessaire avec l'emploi proposé ou permettre l'évaluation des aptitudes professionnelles. Donc en gros, la finalité des questions, c'est de pouvoir apprécier la capacité de votre candidat à occuper l'emploi proposé. Et ça, c'est bien précisé par le Code du travail, c'est l'article L1221-6. Donc, les questions relatives à l'entourage familial, nom, prénom, nationalité, profession et employeur du conjoint, des parents, des enfants, de la tante, du cousin, de... Non, ça, on ne peut pas. Les demandes relatives à l'état de santé, au poids, à la taille, sont également sans rapport avec sa capacité à occuper l'emploi proposé, donc prohibées. Et le recruteur doit porter à la connaissance du candidat les dispositifs mis en place pour collecter les informations le concernant personnellement. Ça aussi, apparaît explicitement dans le Code du travail. On rappelle qu'une collecte de données effectuée par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites est interdite. Et le fait que le recruteur porte à la connaissance de l'employeur du candidat que son salarié postule à un emploi est une manœuvre déloyale si l'accord express du candidat n'a pas été obtenu. Donc oui, vous pouvez contacter l'employeur d'un candidat qui postule à un emploi dans votre entreprise, mais à condition que ce dernier ait donné son accord express. Pour des raisons de preuve, faites signer une petite fiche, un petit document, voilà, histoire d'éviter toute difficulté. Et bien voilà, fin de notre 4 à la suite. Alors, avez-vous fait un parcours sans faute, une faute, deux fautes ? Ici dans le studio, ça a bien joué, et les scores n'étaient pas trop mal, ouais, c'était très bien. Peut-être avez-vous pu glaner quelques informations utiles, pratiques, ou confirmer déjà certaines de vos connaissances, en tout cas, je l'espère. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de Maître Marie, et je vous laisse maintenant en compagnie de notre économiste préféré, Eric, dans La Casa des Ebels.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans la Casa des Ebels. Pour commencer cette deuxième émission du Patchwork saison 2, notre émission nourricière, je vous propose un menu plus léger que celui de la semaine dernière. Je vous propose de débuter avec la réponse au quiz, de poursuivre avec le CAC 40 et son histoire, très sommaire mais tout de même, de fêter un anniversaire qui s'est passé en 1862, et enfin, je vous proposerai un nouveau quiz. C'est parti pour une nouvelle flânerie dans la Casa des Ebels avec la réponse au quiz de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me fournir la réponse qui est le palais idéal du facteur Cheval. Ce monument fut construit par le facteur Ferdinand Cheval de 1879 à 1912. Il se situe à Haute-Rive dans la Drôme. Ce chef-d'œuvre de l'architecture naïve a été classé au titre des monuments historiques en 1969. Les dimensions du palais sont impressionnantes. Il mesure 12 mètres de haut et 26 mètres de long. C'est en avril 1879, durant l'une de ses tournées, que Ferdinand Cheval, facteur de son état, bute contre une pierre qui le fit quasiment chuter. Son regard fut attiré immédiatement par la forme curieuse de cette dernière. Il la ramasse et lui donne le nom de pierre d'achoppement. Dès le lendemain, il constate la présence d'autres pierres remarquables qu'il ramasse et commence à les assembler. C'est ainsi que débute un travail qui dura 33 ans pour aboutir à la création de son palais idéal. La semaine dernière, je vous parlais de la capitalisation boursière totale de l'indice CAC 40, qui est devenue au cours du mois d'août 2020 inférieure à celle de la société Apple que vous connaissez tous. Mais à quoi correspond le célèbre indice CAC 40 qui a été popularisé dans les années 90 par l'iconique chroniqueur financier qui officiait sur France Info plus de 20 fois par jour ? J'ai nommé Jean-Pierre Gaillard. Tout le monde se souvient de ces célèbres phrases. Donc, monsieur Le Guil, nous prenons nos bénéfices sur Saint-Gobain après ce parcours boursier satisfaisant. Ou encore, monsieur Jean-François Gilles, nous restons à l'achat sur Air Liquide qui possède encore un beau potentiel d'appréciation. Voire même, et cette phrase va nous permettre de retrouver l'indice phare du marché boursier parisien. La Bourse de Paris clôture en hausse après avoir connu des soubresauts à la suite de la parution de l'indice PMI non manufacturier, aux États-Unis. Le CAC progresse donc à la clôture de 1,17% pour atteindre le niveau de 3247 points. Retour en 1987, en ce 31 décembre, où est créé le CAC 40. L'acronyme CAC signifie à la création de l'indice Compagnie des agents de change. En effet, depuis la création du marché boursier parisien, les cotations ainsi que les échanges de titres boursiers étaient directement gérés par des officiers ministériels, qui portaient le nom, vous l'aurez deviné, d'agents de change. Ce monopole prendra fin après la promulgation de la loi numéro 8870, très important, du 22 janvier 1988, qui passe donc le relais des agents de change aux sociétés de bourse. Bon, alors, vous imaginez bien qu'il est à noter tout de même que de nombreux agents de change se sont transformés en sociétés de bourse, ce qui leur permettait de pouvoir continuer leur activité professionnelle. Le CAC prit ensuite le nom de cotation assistée en continu. En effet, avec l'automatisation des échanges, la cotation du CAC 40 pouvait être calculée et diffusée en continu. Le 31 décembre 1987, donc le jour de sa création, le CAC cotait 1000 points. Pour information, aujourd'hui, l'indice phare de la Bourse de Paris cote aux alentours de 5000 points. Après avoir tutoyé les 7000 points, alors 6944,71 points le 4 septembre 2000 pour être précis, et ça s'est passé juste avant l'explosion de la célèbre bulle Internet qui a vu un certain nombre de sociétés, le cours d'un certain nombre de sociétés dévisser, voire certaines sociétés totalement disparaître. L'indice CAC 40 est composé de 40 valeurs, vous vous en seriez douté. Les sociétés qui composent l'indice sont représentatives des différentes branches d'activité de l'économie française et reflètent en principe la tendance globale de l'économie des grandes entreprises françaises. La composition du CAC 40 est mise à jour trimestriellement par un comité d'experts. L'indice doit être, normalement, représentatif du marché financier parisien, aussi bien en termes de capitalisation, de flottant, qu'en termes de volume de transactions. Pour espérer faire partie du CAC 40, un titre doit donc répondre à certaines exigences financières. Liquidité du titre, capitalisation boursière suffisante, échange quotidien important de titres. Mais au fait, depuis tout à l'heure on parle du CAC 40, mais quel titre compose cet indice? Comme je vous l'indiquais il y a quelques minutes, la composition de l'indice évolue au fil du temps, et la plupart des valeurs qui le composaient à sa création n'y apparaissent plus. Néanmoins, certains titres comme, je pense que tous ces noms vont vous parler, Air Liquide, L'Oréal, LVMH, Sanofi, Société Générale, font partie de l'indice depuis sa création. Certaines sociétés qui composaient l'indice ont disparu, Arjo Metalbox et d'autres, ou ont fait l'objet d'OPA. Alors qu'est-ce qu'une OPA ? Une OPA est une offre publique d'achat, c'est une société qui en rachète une autre. Et donc, certaines sociétés ont fait l'objet d'OPA de la part de leurs concurrents. Prenons deux exemples. Elf Aquitaine, qui a été rachetée par Total, qui est actuellement la troisième capitalisation du marché. Et Paribas, qui fut absorbée par la Banque Nationale de Paris, ou autrement dit la BNP, pour redonner aujourd'hui BNP Paribas. Aujourd'hui, les principales capitalisations du CAC 40 sont par ordre d'importance LVMH, Sanofi, Total, L'Oréal, Air Liquide, Schneider Electric. Et en bas du classement, donc les cinq dernières, vous avez donc Bouygues, Publicis, ArcelorMittal, Renault et Accor. Donc vous imaginez que Apple a une valeur supérieure à toutes ces grandes entreprises qui sont, pour certaines, et de très nombreuses, leaders mondiaux dans leur domaine. Voilà pourquoi la semaine dernière, j'avais fait une petite aparté sur ce côté un peu, excusez-moi du terme, déconnant de la finance par moment. Et finissons par quelques chiffres, car bien sûr, nous parlons de finance, c'est que les financiers adorent les chiffres. En général, il y en a qui ne comprennent que les chiffres, hein, mais bon, certains ont la capacité d'aller un peu plus loin que les chiffres. Et pour vous donner les principales informations concernant le CAC 40, je me base sur le rapport d'Euronext au 30 juin 2020, rapport qui est publié semestriellement, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc la capitalisation totale du CAC 40 est de 1559 milliards d'euros. Rappelez-vous, Apple, c'est pratiquement 1700 milliards d'euros. Son flottant est de 1118 milliards d'euros, donc un peu moins. Ce qui signifie que 83,2% des actions de l'ensemble des sociétés cotées appartenant au CAC 40 sont inchangeables. Prenons deux exemples pour expliquer ce qu'est le flottant. Alors, vous pouvez prendre Hermès. Hermès, vous connaissez, notamment pour ses carrés et plein d'autres belles petites choses totalement inabordables pour le commun des mortels. Donc, Hermès a un flottant de 30%. Cela signifie simplement que 70% des actions de la société sont détenues par des investisseurs qui ne pourront pas les échanger sur le marché parisien, soit parce qu'il y a des accords X ou Y entre actionnaires ou avec des investisseurs. Ils n'ont pas le droit de vendre leurs titres sans en informer les autres actionnaires. En clair, la société ne pourra pas subir une OPA rampante de la part d'investisseurs qui décident d'acheter des titres sur le marché. LVMH en sait quelque chose. De l'autre côté du spectre, nous avons des sociétés comme Air Liquide, le grand Michelin, donc juste encore un autre leader mondial des pneus, Téléperformance, les gens qui n'arrêtent pas de vous appeler, Veolia et Unibail, les gens qui vous logent, dont le flottant est de 100%. Ceci signifie que tous les titres qui composent le capital de ces sociétés sont potentiellement échangeables. Enfin, et pour finir avec les chiffres, parce que je pense que là je vous ai bien abreuvé de chiffres, pour avoir une idée du poids des différentes sociétés, le poids de LVMH dans le CAC 40 est de 9,70%. C'est-à-dire que LVMH représente 10% du CAC 40, à peu près 10%. Et Accor, qui est quand même la 40e valeur, son poids est de 0,41%. Alors, je vous ai dit qu'on allait fêter un anniversaire, on va fêter les 158 ans de l'abolition partielle de l'esclavage aux États-Unis. Donc, le président Abraham Lincoln a aboli partiellement l'esclavage. Dans les premiers temps de la guerre de sécession, en 1861, le président Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, s'était refusé à abolir brutalement l'esclavage. Lui-même jugeait qu'il était intolérable, mais ne concevait pas, comme la plupart de ses concitoyens, que les anciens esclaves noirs puissent massivement obtenir une pleine et entière citoyenneté à égalité avec les Blancs. Mais à mesure que se creuse le fossé entre les frères ennemis, donc les États-Unis au nord et les États confédérés d'Amérique, principalement au sud, qui avaient fait sécession des États-Unis, le président se résigne à franchir le pas vers l'abolition et à l'utiliser comme arme de guerre. C'est ainsi que le 22 septembre 1862, un an après le début de la guerre de sécession, quelques jours après le premier succès nordiste, le président Lincoln annonce le 1er janvier 1863 l'émancipation des esclaves dans les États qui persisteront dans la rébellion. Cette émancipation sera immédiate et sans indemnité d'aucune sorte dans ces États, où vivaient 80% des 4 millions d'esclaves noirs des États-Unis de l'époque. Par contre, dans les États intermédiaires, esclavagistes et néanmoins fidèles à l'Union nordiste, cette émancipation sera progressive, négociée et indemnisée. Bon, il n'était pas encore question d'inscrire l'abolition de l'esclavage dans la Constitution, faute d'une majorité suffisante au Congrès. Cependant, en janvier 1865, comme la victoire se rapproche et que le Sud, ruiné et défait, n'est plus en état de négocier quoi que ce soit, le président Lincoln rédige le texte du futur amendement. Cet amendement, qui deviendra le 13e amendement de la Constitution des États-Unis, est adopté le 6 décembre 1865. Et cet amendement prévoit bien entendu la fin de l'esclavage. Je viens de vous parler de capitalisation boursière et du poids des valeurs au sein d'un indice. Et voici la question du nouveau quiz. Pouvez-vous me donner le nom de la société dont le poids à l'intérieur de l'indice CAC 40 a atteint 25% au cours de la merveilleuse période que tout le monde appelle la bulle Internet ? C'était la Casa de Ebel. À la réalisation, je remercie Yanis qui va nous accompagner au cours de cette nouvelle saison. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle récréation dans la Casa de Ebel.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Je vais donc poursuivre la lecture du roman Superman ne volera plus de Gilbert Noguès aux éditions Cairn. Dans mon empressement de vous faire découvrir la suite des aventures de Georges Cambolive, je vous ai annoncé que nous irions à Mexico. C'est une petite erreur. Cette semaine, le chapitre s'intitule « Le clown ». Et nous écoutons quelques passages de la chanson de Gianni Esposito.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs.
Jojo est propre, Jojo sent très bon. C'est pas, me diriez-vous avec justesse, l'odeur ordinaire de Chanel numéro 5, on fait avec ses moyens, qui embaume le corps, mais le flacon d'eau de Cologne de Consuelo, qui y est passé en entier, fait son effet. Astiqué, récuré, lustré, le corps de mon petit frère repose sur la table de la cuisine pour partie et sur le dossier d'une chaise pour ce qui concerne les pieds. Je tiens à préciser que malgré le rétrécissement consécutif à sa chute, Georges est encore trop grand pour une table d'à peine un peu plus d'un mètre de circonférence. Je suis passée par tous les états. En rien de temps, je viens de retrouver un frangin et en même temps, je m'apprête à l'enfouir pour toujours dans la terre toulousaine. Je ressens aussi cette même pointe auprès du cœur, la même que j'ai éprouvée un peu plus tôt dans la journée. Inconsciemment, mon subconscient avait déniché au plus profond de mon être une relation dont je n'arrivais pas à apprécier la nature avec ce corps étendu au fond d'un congélateur. C'était mon frère, et à ce moment-là, je l'ignorais. Est-ce la même raison qui m'avait poussée le soir de la chute à exfiltrer son corps ? Gus ! La voix de Consuelo me sort de mes réflexions psychologiques et me ramène à la réalité en même temps qu'elle pose sa main pataude sur mon épaule. J'en perçois le poids, mais aussi la tendresse qu'elle ne cherche pas à dissimuler. Est-ce que nous aurions procédé de la même manière si Superman avait été un illustre inconnu ? Certes, nous l'aurions pomponné un peu, mais je ne suis pas sûre que Consuelo aurait sacrifié un flacon entier de son eau de toilette. Gus ! Je lève les yeux, laissant le gisant à son immobilité. Gus, c'est mon Jojo, ton Georges. Et ça change la donne. On va plus l'enterrer ? Si, mon Gus, mais il mérite des funérailles nationales. Je n'ose lui dire que je trouve ses propos un peu exagérés. Façon de dire, Gus. Me voilà rassurée. Je ne nous voyais pas exposer son cercueil dans une chapelle ardente au local de la CNT, défiler en grande pompe sur la place du Capitole, drapeau noir avec un encerclé en tête de cortège. Jojo, dans sa boîte de conserve, et tous ses anciens amis entonnant « Il n'y en a pas un sur 100, mais pourtant ils existent. »« On ne peut pas faire ça ce soir », me lance son énormité. « C'est trop tôt pour moi. » Je la comprends. Elle aussi vient de renouer avec le passé. Jojo, son unique amour, son compagnon de cœur, son camarade de lutte. J'ai respecté son silence quand elle a procédé à la toilette du corps. Elle voulait s'en occuper seule. Sans doute était-elle effrayée à ce que ma balourdise entraîne une nouvelle maladresse et vienne encore ajouter quelques blessures à ce corps déjà trop meurtri. Pour ce soir, on va le recongeler. On va dormir et demain sera un putain d'autre jour. Elle retrouve avec ce nouveau putain toute l'énergie qui avait fondu pendant la toilette de Jojo. Elle me tend un petit morceau de tissu. J'ai trouvé cette étiquette sur la cape de Jojo. Je lis l'inscription. Caméléon, article de fête et déguisement. Tu comprends, Gus. Jojo, il a loué ce costume. Il a dû laisser une adresse. Peut-être qu'il ne vit pas seul, qu'il a une femme. Une larme perle de ses yeux. Des enfants, je suis tonton. Elle sourit à ma remarque pleine de naïveté. Gus, je veux en savoir plus sur lui. Faut retrouver où il vivait, pourquoi il est venu dans une soirée faire le clown et comment et pourquoi il a terminé sa vie sur ton putain de chariot. Une fois de plus, je suis stupéfait par cette bonne femme. Elle vient de renouer avec un passé douloureux et la voilà qui se projette déjà vers l'avenir afin de comprendre les raisons qui ont causé la mort de son Jojo. Et tu veux savoir, Gus, que va-t-elle encore me sortir de son chapeau, même si à ce moment-là, elle n'en porte pas un ? Ton chaudron, ton putain de DRH, il doit savoir. On va le faire causer ? Mieux que ça, on va lui tirer les vers du nez et avec des putains de tenailles s'il le faut. Je la sens résolue, j'approuve. Et quand bien même il n'est pas recommandé de recongeler un plat, délicatement, notre ex-congelé retourne à sa boîte. Voilà, chers auditeurs, cette fois-ci, vous retrouverez bien le prochain épisode intitulé « Mexico ». Et si vous souhaitez réécouter ces émissions, n'oubliez pas de vous connecter sur www.espritoccitanie.fr ou consulter la base de podcast sur l'application pour mobile Esprit Occitanie. À très bientôt.
C'est des Patchwork, mission que vous pourrez réentendre ce soir à 23h, demain matin à 10h. Rendez-vous pour un nouveau Patchwork mardi prochain à 19h.